Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique, toujours avec Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire Mandelot en Gévaudan. Salut Nelly.
Salut.
Et aujourd'hui Nadia Rabaz qui est directrice musée et patrimoine au sein de la ville de Mende. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Alors Nelly, on va aller où aujourd'hui ?
Alors la dernière fois, on avait annoncé, on était sur le plateau du Palais du Roi. Pour ceux qui se souviennent, on avait annoncé qu'on resterait dans le secteur. Changement de programme parce que actualité, on va pas prendre la voiture, on va rester sur Mende et on va vous ouvrir les portes d'un bâtiment, d'un lieu qui est fermé depuis combien de temps, Nadia ?
Et depuis 1995.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende-et-Lot en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Voilà, on est en cœur de ville de Mende, on est arrivé devant ce musée du Gévaudan qui est en travaux. Nadia ?
Oui, alors on est ravis de vous ouvrir les portes en avant-première de ces lieux à l'occasion de la Nuit des musées qui se déroule dans la France entière avec plein d'événements. Et donc nous, on vous fait découvrir l'envers du décor et les contenus à l'occasion de cette Nuit des musées.
Voilà, on est devant le musée aux 3 rues de l'Épine. Nelly, pour situer le bâtiment à nos auditeurs, nous sommes dans la partie basse de la ville, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, quelques indications. Donc, on est dans cette rue de l'Épine qui fait se rejoindre la place au beurre. Donc, c'est la place où il y a cette fontaine avec la boule qui tourne, que beaucoup d'enfants connaissent. Donc, à la perpendiculaire de la rue droite et de la rue basse, on est à peu près à une quinzaine de mètres du cinéma Le Trianon et à une dizaine de mètres du parking du Mazel. Donc, on est dans cette partie basse de la ville qui va vraiment se développer à partir du XVIe siècle et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, avec notamment la construction d'hôtels particuliers que de riches bourgeois marchands vont se faire construire dans cette partie basse de la ville parce qu'il y a la possibilité de les construire là. Et donc on va rentrer dans le musée et on va voir qu'on rentre dans un hôtel particulier.
Nadia, rue de l'Épine, d'où vient ce nom ?
Alors rue de l'Épine, de la couronne d'épines du Christ, hein, on aurait retrouvé une des épines de cette couronne dans les lieux. Et ces lieux, comme Nelly vient de l'indiquer, réunissent plusieurs parcelles, dont un hôtel particulier qui est vraiment le cœur du musée, un hôtel particulier de la fin du XVIIe siècle, l'hôtel Buisson de Ressouche, ainsi que deux autres édifices. En fait, on le distingue en façade. Hein, quand vous baladez rue de l'Épine et là, quand on est face au bâtiment, on aperçoit trois bâtiments distincts. Donc, on a réuni deux maisons particulières, également anciennes, et en profondeur, ça on va le découvrir par la suite, on a également une parcelle issue d'un ancien hôtel particulier, cette fois-ci l'hôtel des Deux Morées.
On va rentrer dans la cour. Ça y est, on est entré, vous entendrez peut-être des bruits, il y a des travaux, hein. Ça doit ouvrir normalement en octobre prochain, 2022. C'est vraiment magnifique hein, ce qui a été travaillé. On n'imagine pas finalement que derrière ces façades plutôt sobres se cache cette cour. Nelly, on est dans l'hôtel particulier des Buissons de Ressouche, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, comme le disait Nadia, donc aujourd'hui, le musée regroupe plusieurs bâtiments qui sont maintenant associés pour créer cet équipement culturel. Mais on est vraiment dans cette cour, donc comme beaucoup d'hôtels particuliers qui sont certains entre cour et jardin, donc on a du mal à s'imaginer l'emprise de ces bâtiments derrière ces portes cochères. Et là, donc on est dans une cour carrée autour de laquelle donc se développent ces bâtiments avec une magnifique porte. Non, il ne faut pas que je rigole.
Alors on entend en direct live un ouvrier heureux parce qu'on a encore du monde qui travaille sur le chantier. Hein. C'est pour ça que vous ne pouvez pas encore pénétrer dans les lieux. On sera en travaux. Alors du coup, j'interromps Nelly, mais du coup, l'occasion était propice. Hein. C'est pour ça qu'on rit. Chantier heureux, effectivement, qui prendra fin au tout début de l'été. Hein. On aura vraiment terminé les travaux début juillet pour ouvrir, comme Ludo le disait, cet automne, hein, en octobre-novembre.
Voilà, un musée qui vit déjà, n'est-ce pas? Donc devant nous, on a une magnifique porte, une porte donc du 17e puisqu'elle porte la date, hein, 1665, voilà, et qui est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1946. Donc on a ici une très belle façade sur cour avec une porte inscrite, un escalier derrière inscrit aussi, et puis on le verra après, on fera un arrêt voilà, dans un des petits joyaux, on va dire, du musée à l'étage.
Nadia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce bâtiment, sur son histoire ?
Oui, bien sûr. Ce bâtiment abritait le musée précédent, hein, qui a fermé ses portes en 1995, le musée Ignon Fabre. Musée qui avait été fondé donc, par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère, qui est notre partenaire sur ce sujet, puisque la majeure partie des collections provient de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère. Musée qui a été également porté par le département. Département qui a œuvré pour sauvegarder les collections, faire un préconditionnement, un pré-inventaire, vraiment un travail de titan, qui nous permet aujourd'hui, Ville de Mende et avec l'appui de nombreux partenaires, notamment donc l'État, l'Europe, la région et bien sûr le département de la Lozère, pour mettre sur pied ce projet, qui réunit donc plusieurs parcelles historiques. Et l'enjeu, c'était vraiment justement de rester implanté sur ce site historique, en cœur de ville, parce que les objectifs sont vraiment le rayonnement, l'attractivité, et puis redynamiser ce cœur de ville. D'où l'intérêt, vraiment l'enjeu très fort, hein, de faire des travaux de réhabilitation et d'extension en cœur de ville.
Architecturellement, j'imagine que ce n'était pas facile de réhabiliter un musée en cœur de ville.
Tout à fait, c'était vraiment du point de vue architectural, de la programmation architecturale, il y avait un gros défi qui était de relier plusieurs bâtiments qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, hein, donc le noyau dur, l'hôtel Buisson de Ressouche, puis ces maisons particulières qu'on aperçoit depuis l'extérieur, et en profondeur encore d'autres parcelles. Le défi, c'était vraiment de mettre tout cela à niveau, en fait, pour offrir à peu près 1200 mètres carrés d'espace aux visiteurs et au public, le tout déployé sur 3 niveaux.
Peut-être pour reprendre, pour compléter ce que disait Nadia, donc au point de vue architectural, là, pour que nos auditeurs en fait se projettent un peu dans le bâtiment, on est donc dans cette fameuse cour, ce patio qui est aujourd'hui couvert d'une énorme verrière qui doit faire à peu près 100 mètres carrés, hein, Nadia, si je ne me trompe pas, le patio, et qui est largement ouvert sur les bâtiments autour. Donc en fait, on a une série de bâtiments et on va retrouver cette disposition aux différents étages. Donc au rez-de-chaussée, c'est largement ouvert par des arcades, en fait, hein, donc on va pouvoir rentrer. En fait, il y a un jeu entre l'intérieur et l'extérieur au rez-de-chaussée, et du coup on a à l'étage donc une série de fenêtres à meneaux et traverses qui peuvent nous rappeler un petit peu le château du Boy, pour ceux qui ont écouté notre visite radiophonique il y a 2 ans maintenant, hein, Ludo. Voilà, donc une très belle architecture soignée, avec un calcaire très chaleureux et une réhabilitation aussi dans le même esprit. Nadia, elle va peut-être pouvoir vous en dire un mot, mais voilà, le parti pris qui a été fait, c'est vraiment de valoriser les matériaux nobles. Et on a donc un magnifique mur en bois du cabinet d'architecte. Mais Nadia, je te laisse compléter là-dessus.
Oui, effectivement, le travail avec le maître d'œuvre, l'atelier Nebout, en mandataire principal, et Hélène Brouillet à Mende, c'était de réhabiliter ces lieux, de magnifier l'architecture tout en respectant l'historique. Et effectivement, là, on a une création totalement nouvelle dans cette cour, qui est un mur en frêne, avec ce découpage et cette vibration qui est vraiment très, très beau, qu'on a hâte de vous faire découvrir en réel. Et puis toujours ce dialogue intérieur-extérieur, à la fois donc du point de vue architecture, mais aussi du point de vue des contenus. Puisqu'au rez-de-chaussée, on accueille des lieux vraiment très différents, largement ouverts sur le territoire, des lieux patrimoniaux, avec le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire, donc vraiment un espace patrimonial, Nelly va vous en dire quelques mots. un espace médiation donc, qui est vraiment aussi partagé avec le Pays d'Art et d'Histoire. Et puis des espaces vraiment de partage. Alors ça, on vous garde quand même quelques petites surprises pour l'ouverture, mais voilà, des lieux de partage que vous serez invité à faire vivre. Et puis bon, des espaces fonctionnels, évidemment. Hein, et le bâtiment en entier sera entièrement accessible à tout type de public. Et le tout desservi aussi donc par un ascenseur hein, pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui préfèrent utiliser un ascenseur.
Donc sur ce niveau, tu l'as dit Nadia, il y a le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le CIAP, donc qui est proposé par le Pays d'Art et d'Histoire, Nelly.
Oui, alors c'est un mot un peu compliqué. Enfin, c'est Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. On ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour nous, Pays d'Art et d'Histoire, une obligation hein, de notre convention décennale qu'on a signée avec l'État. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un équipement culturel qui est dédié au territoire, qui est là pour présenter l'évolution et l'histoire du territoire au sein d'une exposition permanente et puis après qu'on va essayer de déployer sous forme de thématiques avec des expositions temporaires, des visites voilà, sur le terrain comme on fait depuis une quinzaine d'années, des ateliers pédagogiques aussi pour accueillir toujours les scolaires. Donc ici on est dans un espace qui est complètement ouvert sur ce patio et qui va donner à voir en fait le territoire labellisé, le territoire Mandelot-Angers-Vaudan, avec une carte et un plan en relief et surtout un film qui va être projeté dessus et qui va nous raconter en quelques minutes l'histoire du territoire. Ce qu'on a cherché à faire surtout, c'était comme garder toujours ce lien avec l'extérieur et le territoire, donner envie aux gens d'en savoir un petit peu plus, mais surtout leur donner envie d'aller se balader après à l'extérieur. Donc vraiment, on a conçu tous les équipements du rez-de-chaussée de cette façon-là, et même, je pense, l'exposition permanente, c'est-à-dire, il faut que les gens aient envie de sortir du musée pour aller découvrir sur place ce territoire qui est très très riche, voilà. Et donc l'autre espace, c'est comme le disait Nadia, espace mutualisé avec le musée, donc un espace de médiation qui va sous forme d'établi, puisque ce sera les établis, qui va donner à voir le territoire sous forme ludique, sous forme sensible, donc on va pouvoir toucher, manipuler, s'amuser, en apprendre aussi beaucoup plus, mais un espace qui est vraiment dédié à la médiation, où les gens vont pouvoir prendre le temps ou pas, choisir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent découvrir à travers une thématique très large qui est voie et chemin de communication. Donc l'idée, c'était de pouvoir parcourir un petit peu le territoire du Pays d'Art et d'Histoire, et donc à travers lui, celui de la Lozère, créer du lien avec les collections permanentes du musée, puisqu'il y a beaucoup de clins d'œil qui sont faits avec ce que les gens découvriront à l'étage. Donc voilà, un espace vraiment de jeu et d'apprentissage.
Allez, on va monter à l'étage.
Ouverture des portes en cours. Fermeture des portes en cours.
Ça y est, on vient d'arriver au premier étage, c'est grand, hein ?
Oui, ben comme le disait Nadia, c'est grand. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer ce que le bâtiment abritait à l'origine. Et donc, on retrouve ce qu'on avait au rez-de-chaussée au premier étage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir circuler autour de cette cour carrée. Et donc, on va avancer comme ça, petit à petit, dans le parcours muséal qui va se déployer sur ce premier étage.
Alors effectivement, donc premier étage, exposition permanente, qui est déployée sur environ 400 mètres carrés. Il faut savoir que le musée du Gévaudan a plusieurs labels, le label Musée de France, donc ça c'est par rapport à justement ses collections, avec plusieurs objectifs et avant tout leur accessibilité au public. Donc on a vraiment hâte de vous les faire découvrir. Autre label, Sanelli en a déjà parlé, monument historique, hein, puisqu'on a plusieurs parcelles qui sont protégées au titre des monuments historiques, et le label Pays d'Art et d'Histoire. Donc ici, focus sur ce parcours permanent, l'exposition, ses collections. Les œuvres qui sont présentées sont à peu près au nombre de 500 environ, en sachant que le musée du Gévaudan conserve allez, quasiment 20 000 objets, toutes époques confondues, et qu'évidemment, tout n'est pas présenté. Hein. Comme ça, ça nous permettra de vous révéler quelques surprises dans les années et décennies à venir. La majeure partie des collections vient de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Lozère, pour les collections historiques. Et puis, certaines œuvres sont issues de dépôts, de partenaires. Donc, on a par exemple le Parc national des Cévennes, le département, mais aussi un peu plus loin, on a le MUCEM à Marseille, le Musée du Louvre, on a également la ville de Gien. Donc, vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien, on a hâte de vous accueillir au musée pour vous expliquer tout ça. L'objectif, là, c'est de vous faire découvrir en bref les contenus de ce premier étage, avec donc un parcours qui sera déployé autour de deux thématiques, la nature et la culture. Donc tout d'abord, quatre salles consacrées à la nature et ses usages, où là, vraiment, on parle du territoire, des œuvres 100% Lozère. Donc autour de quatre thèmes vraiment qui vont venir mélanger des œuvres issues de la proto-histoire jusqu'au XXIe siècle et qui viendront mêler aussi toute typologie. On aura de l'archéologie, des beaux-arts, de l'ethno, vraiment de tout. Et donc ici, une première salle, on va commencer le parcours, toute première salle consacrée à la thématique de la terre. Deuxième salle consacrée à la thématique de l'eau. Donc vous voyez, tout de suite, on est bien plongé dans le territoire avec, on pourra aborder évidemment la géologie, puis la thématique des sources, le tout autour d'œuvres. Ici, l'objectif, c'est vraiment de faire dialoguer les objets, par exemple dans cette salle terre. On est sur cette thématique de la nature et ses usages, donc vous aurez de la terre, vraiment des matériaux bruts, des minéraux de tout type de forme, issus du territoire lozère, et en regard, vous aurez des œuvres faites de pierre ou parfois de terre, hein, comme par exemple les sigillés de Banassac. Salle suivante, même principe, où vous aurez aussi des œuvres d'art contemporain. À l'exemple, ici dans ce secteur consacré à l'eau, une sculpture d'Audrey Guiraud qui a été réalisée justement dans le cadre d'une exposition Pays d'art et d'histoire qui représente le tracé du Lot. Troisième salle consacrée au secteur végétal.
Peut-être pour compléter ce que dit Nadia et pour que les visiteurs se projettent davantage, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Ludo, toi tu découvres le monument, mais on a un bâtiment, en tout cas le parti pris qui a été choisi, c'est donc une ambiance très chaleureuse, très neutre. On a déjà en place là, des vitrines, du mobilier en bois, donc ça reste très chaleureux et très neutre pour mettre vraiment en valeur les objets qui vont bientôt arriver.
Et très développement durable aussi. Hein. Et donc, on est dans le secteur végétal, ça tombe bien, parce que l'objectif aussi, c'est d'inscrire l'exposition dans une perspective. Raconter l'histoire avant, hier, aujourd'hui et demain, s'interroger sur demain. Ici, secteur végétal, vous aurez une petite pépite qui vous attend. C'est une grainothèque sur le principe du troc, où vous serez amené et invité à venir déposer et collecter des graines de variétés non hybrides, anciennes. L'objectif, c'est aussi d'expliquer ce que c'est une variété non hybride et de s'interroger sur la nature et en regard. Donc, il y aura des objets et des œuvres qui sont à la fois des végétaux fossilisés ou un herbier local ou encore des objets ethnographiques. Donc, vraiment, il y en aura pour tous les goûts et en regard, une fois encore, ici, de l'art contemporain avec des photographies d'Anaëlle Vanel, jeune artiste mandoise qui vit en Allemagne aujourd'hui. Ses œuvres d'art graphique seront amenées d'ailleurs à être renouvelées régulièrement pour vous proposer des nouvelles choses au fur et à mesure et vous donner envie de revenir.
La terre, l'eau, les fleurs, il en manque une ?
Alors la terre, l'eau, ensuite là on arrive sur le secteur animal. Comme ça, donc on aura fait la terre, l'eau, le végétal et l'animal. Quatre univers complémentaires pour parler du territoire de la Lozère. Et ici, selon le même principe, il y aura des œuvres qui partiront des traces de dinosaures pour arriver à des œuvres ethnographiques, le monde ovin, le monde bovin, mais également, je refais un retour en arrière, mais des ammonites. Enfin voilà, il y aura de tout pour parler du territoire et de l'évolution de la faune au fil des millénaires.
Très bien, Nadia. Donc après ces quatre premières salles, une cinquième.
Alors, suite du parcours, effectivement. Et ici, donc, la thématique, c'est la culture et ses témoignages. On est sur un parcours qui est plus chronologique, puisque là, on part de la préhistoire et de l'Antiquité pour arriver au XXIe siècle à la fin du parcours, avec quand même quelques incursions thématiques qu'on aura au fil de la déambulation, et notamment incursion thématique consacrée à la bête du Gévaudan.
Dans cette petite bulle, on va dire, consacrée à la bête du Gévaudan, c'est là qu'on retrouvera la fameuse bête de poussière, la bête de Lionel Sabaté, pour ceux qui s'en souviennent. Donc Lionel Sabaté avait été accueilli en résidence ici en 2019 pour réinventer le mythe de la bête du Gévaudan avec la poussière du Gévaudan. Donc on la retrouvera donc dans cet espace consacré à toute cette histoire.
Voilà, donc ça c'est le premier étage, les expositions permanentes. Ce second étage au-dessus, ce sera les expositions temporaires.
Oui, effectivement, sur environ 200 mètres carrés, on aura un bel espace pour accueillir des expositions temporaires qui seront renouvelées annuellement avec des thèmes qui iront du local à l'international, pourquoi pas. On pourrait avoir des expositions qui mettront en lumière les collections. Alors quand je dis local, d'ailleurs, on est toujours sur le territoire Gévaudan, d'où le nom Musée du Gévaudan, territoire de la Lozère. On élargit toujours le propos et on aura toujours un rayonnement qui ira jusqu'au régional. On pourrait avoir des expositions complètement déconnectées de l'art contemporain, l'objectif étant vraiment de décloisonner et d'ouvrir et de permettre ici d'accueillir des expositions d'intérêt national et des expositions d'envergure qu'on travaillera avec nos partenaires chaque année. Ce deuxième étage aussi accueille des espaces dédiés à des ateliers qui nous permettront de recevoir tout type de public, les scolaires, mais tout type de groupe pour des ateliers également de toute nature, ateliers manuels, mais aussi, pourquoi pas, gastronomiques. Enfin bref, on aura plein d'idées et on vous annoncera tout cela très prochainement.
On pourra avoir du Caravage, j'aime beaucoup ce petit artiste.
Pourquoi pas, bien sûr. Non, mais on rit, mais justement, ça m'amène à vous parler de la salle sur laquelle on va faire un petit arrêt, c'est la salle des Vertus, où on a des peintures d'après Simon Vouet, grand peintre français du XVIIe siècle. Juste avant d'entrer dans cette salle, d'ailleurs, on aura des Piranèses, parce que vous parlez de Caravage. Donc vous voyez, dans cette partie culture et ses usages, culture et ses témoignages, pardon, là on aura des œuvres qui seront extra-lausériennes. L'objectif du musée, c'est de parler de la Lozère, mais aussi d'ouvrir, donc grâce à des collections qui peuvent nous permettre ça, évidemment. Notamment la collection de Gallière, Victorin Gallière, peintre local. Donc on va présenter certaines de ses peintures, une petite sélection dans le musée, mais également des choses issues de sa collection, dont des gravures. C'est pour ça que je parlais des Piranèses, parce qu'on a des très très belles œuvres qui sont pas du tout, qui parlent pas de la Lozère, mais qui font partie des collections et de l'histoire des collections.
Allez, allons dans la salle des Vertus. Je ne sais pas si tu as le droit de rentrer, Nelly, dans la salle des Vertus. Allez, on est arrivé dans la salle des Vertus.
Oui, la salle des Vertus, c'est une petite pépite dans le parcours du premier étage. C'est vraiment une salle exceptionnelle qui a été préservée grâce à la découverte faite dans les années 90 de traces vraiment de peinture. Donc ça, les monuments historiques et la conservation départementale ont lancé des mesures, on va dire, conservatoires à l'époque. Et surtout, on œuvrait pour que cette salle soit protégée au titre des monuments historiques. La riche idée, ça a été de placer cette salle au cœur du parcours. Donc elle n'était pas non plus du tout à niveau, elle n'avait rien à voir avec le bâtiment Hôtel Buisson de Ressouche. Là, on est vraiment sur une partie extension reliée. Là, on est sur un ancien hôtel particulier de la fin du XVIIe siècle également. Il fallait y croire pour pouvoir sauver cette salle et la relier au parcours. Parce que ce qu'on voyait à l'époque, c'était vraiment, vraiment pas grand-chose, puisque tout avait été recouvert sous un enduit. Ici, c'était une cuisine. Donc il faut me croire sur parole, parce que ça ne se voit plus. Les seules traces que vous pouvez percevoir, ce sont les traces, justement, de dégradation. Ça, c'est le principe dans la restauration. On ne refait pas, là où on n'a vraiment aucune information historique restante, on ne refait pas, on laisse les lacunes telles qu'elles existent. En revanche, là où on a pu restaurer, on a eu un résultat assez exceptionnel. C'est une restauration qui a duré à peu près 6 mois. Et on a redécouvert donc des peintures. Et là, ça a vraiment été un travail fabuleux fait en lien avec les restaurateurs, de réflexion. En fait, on est venu nourrir chacun le travail de l'autre pour comprendre ce qui était représenté. Parce qu'on part de très très loin, on ne voyait vraiment plus grand-chose. Et le travail des restaurateurs a permis de révéler petit à petit des indices, et de plus en plus. Donc là, on aperçoit une femme une allégorie très certainement. À l'époque, c'est ce qu'on se disait, on est certainement sur des motifs allégoriques. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est petit à petit un motif qui réapparaît, un bouclier, une lance. Et donc là, ce motif qui est vraiment rejailli au final, a permis, en fait, ça a été vraiment l'indice majeur pour retrouver l'iconographie, comprendre l'iconographie. Et ici, on est sur une allégorie de la force. Donc ça, c'est une des vertus, on appelait ça des vertus au XVIIe siècle. Et donc, le fil a permis de dérouler pas mal de choses. Donc, en recherchant, découverte qu'il s'agit d'une peinture d'après Simon Vouet, avec, comme bien souvent au XVIIe siècle, une phase intermédiaire par la gravure. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, ce qui faisait circuler les motifs, c'était les gravures. Donc là, on est sur une gravure de Michel d'Origny d'après Simon Vouet, qui était peintre du roi. Donc, ce peintre du roi, Simon Vouet, avait réalisé 4 peintures des vertus pour la chambre d'Anne d'Autriche, au château de Saint-Germain-en-Laye. Donc aujourd'hui, c'est une pièce qui n'existe plus, mais les peintures ont été sauvegardées et se trouvent à Versailles. Donc ici, on est sur une voûte en berceau et sur une technique de peinture murale à l'huile, donc sur enduit. Au château de Versailles, on était sur un plafond en bois, peinture à l'huile également. Donc allégorie de la force, vertu de la force. En regard, on a l'allégorie et la vertu de la justice, avec notamment le symbole de la balance. Ensuite, là, au fond à gauche, vous voyez l'allégorie de la tempérance. Et au fond à droite, la prudence. Tempérance, on voit notamment le motif d'une licorne et les rênes qui visent à freiner, à retenir. Et la prudence à droite, vous voyez qu'on est sur le motif le plus dégradé. On n'en perçoit plus grand-chose. En revanche, on connaît la gravure de d'Origny d'après Simon Vouet qui nous permet de comprendre le motif. Et là, ce qu'on voit dépasser, c'est une aile d'aigle. Et donc le tout, vous pourrez le découvrir évidemment dès que le musée aura ouvert ses portes. C'est vraiment un petit joyau. On sait que certains sites en Lozère et d'ailleurs dans la France entière reprenaient ces peintures de Simon Vouet. On a notamment le château du Bois, Nelly, qui avait ses peintures aussi, qui présentait ses peintures.
Tu t'en souviens, Ludo, hein?
Oui, absolument.
On a fait la visite radiophonique au château du Bois, on en avait parlé, effectivement, oui. On avait là-bas aussi un plafond peint avec des peintures d'après Simon Vouet.
Fermeture des portes en cours. Ascenseur en descente. Étage 0.
Voilà, on vient de prendre cet ascenseur. Non pas parce qu'on est des feignants, hein, Nadia, mais surtout parce qu'il y a des travaux actuellement sur l'escalier. Tu nous as parlé de l'escalier, qui était une des pièces maîtresses aussi de ce musée. Est-ce que tu peux m'en dire davantage ?
Oui, ça fait partie des joyaux architecturaux à découvrir dans le bâtiment, hein, le bâtiment qui porte le nom, enfin l'équipement qui porte le nom de musée du Gévaudan. Mais on est vraiment au-delà, parce que là, vous pouvez vraiment vous faire un parcours architectural, entrer dans cette cour donc, qu'on a découvert en début de visite, admirer cette porte par laquelle on peut accéder à l'escalier, cet escalier qui dessert tous les niveaux du bâtiment. Et donc cet escalier, il est vraiment typique de ces hôtels particuliers de la fin du XVIIe siècle. On a un escalier dit rampe sur rampe, avec vraiment un joli travail architectural qui a pu aussi renaître de ses cendres comme pas mal de parties historiques des lieux grâce aux travaux là menés depuis deux bonnes années, oui.
Allez, Nadia, on va terminer cette émission avec l'actualité du moment.
Oui, alors l'actualité du moment, c'est la Nuit des musées, hein, occasion qui nous a amené à vous inviter à la visite des lieux en avant-première. Et puis actualité aussi, la presque fin de chantier, hein, puisque les travaux touchent à leur fin. On aura donc terminé vraiment les travaux purs et durs de seconde œuvre et de scénographie d'ici début juillet. Ensuite, on continue à travailler d'arrache-pied avec le Pays d'Arrêt d'Histoire pour vous concocter un projet aux petits oignons. Et donc l'équipement ouvrira ses portes cet automne.
Une anecdote pour Brillant Société ?
Évidemment, on ne pouvait pas finir cette visite sans ça. Alors, on a parlé de l'hôtel Buisson de Ressouche, on a parlé qu'ici, avant, c'était le musée de Mende. Mais ce bâtiment a eu, à un moment donné, une autre vocation. Est-ce que tu le sais, Ludo ?
Je n'en ai absolument aucune idée.
Eh bien, figure-toi qu'en 1887 est installé ici, dans ce bâtiment, au milieu de la ville de Mende, la première usine qui produit de l'électricité. Voilà, donc on a quelques illustrations qui montrent une grande cheminée à côté de ce bâtiment. Et donc cette première usine va fonctionner jusqu'en 1974.
J'en reste bouche bée.
Mais bien sûr. Et alors, On peut en trouver une, mais alors encore mieux. Anecdote, une deuxième. Nadia, si tu veux compléter et en proposer une autre.
Oui, alors cette cour qui aujourd'hui est coiffée d'une grande verrière était autrefois à ciel ouvert. Donc cour qui sera vraiment un lieu de convivialité, cour qui sera ouverte sur le territoire. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait dans cette cour autrefois ?
Un puits ?
Non, cherche encore. Petit indice, nous en avons parlé, vous en avez déjà parlé lors de la visite des Salelles. Il y avait quelque chose dans cette cour qui était symbole de l'amitié au Moyen-Âge.
Un arbre.
Bravo Ludo, mais quel arbre ?
Un tilleul.
Oui !
Bravo. C'est ça, tout à fait. Donc on avait ici, au centre de la cour, d'ailleurs c'était encore le cas quand le musée était départemental, le musée Ignon Fabre, on avait un grand tilleul qui était au centre de cette cour. Ce tilleul a été remplacé par une grue le temps des travaux. On a eu une grue implantée vraiment au même endroit pendant au moins 6 mois. Et puis aujourd'hui, donc, cette cour est coiffée de la verrière pour vous permettre d'entrer ici toute l'année avec le plus grand confort.
Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui s'en souviennent de cet arbre, puisqu'on avait vu passer des photos, et puis les gens qui avaient visité le musée avant s'en souvenaient. Donc voilà, petit lien avec la vocation de cet équipement qui se veut ouvert, un lieu de partage, et de ben voilà, quoi
amical.
De mieux que, voilà, symbole de l'amitié quoi.
Voilà, parce que ça, c'est vraiment la conclusion, c'est que on est sur un lieu ouvert. Voilà, on travaille de concert avec le Pays des Rêves d'Histoire, mais avec plein d'autres partenaires. L'objectif, c'est vraiment de vous accueillir dans ces lieux qui visent à décloisonner, à ouvrir complètement. On vous promet que vous ne vous ennuierez pas et qu'on est bien au-delà d'un simple musée.
Merci beaucoup à toutes les deux. Le mois prochain, on retourne comme prévu au Plateau du Roi ?
Oui. Tu vas reprendre de la hauteur le mois prochain et tu vas retrouver donc Caroline et Elsa Loupandine, donc guide conférencière au Pays d'Art et d'Histoire, qui vont te faire découvrir un lieu devant lequel on passe souvent, mais où on s'arrête peu. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.